Kiosque Magazine.
Jeudi 3 septembre 2015, édition ultime de Kiosque Magazine en ce qui concerne les sujets d'économie et d'emploi, puisqu'à compter de la semaine prochaine, cette émission cédera l'antenne à une nouvelle formule améliorée, plus dynamique, plus agréable et ô combien plus intelligente. Mais dans l'intervalle, on va quand même vous parler de ce qui s'est passé cette semaine d'une manière tout à fait raisonnable. Et quand je dis on, c'est Éric de Belval et moi-même, François Brodeur. Éric, qu'est-ce que vous avez prévu?
Eh bien, de commencer par faire le ménage, François. Et effectivement, les subventions accordées par les administrations aux entreprises sont souvent trompeuses, donc c'est de ce ménage-là que je parle. En effet, il arrive souvent que ce qui est accordé par la main de la subvention soit repris par celle du fisc. Au fond, il s'agit de gérer un équilibre subtil, tant pour le donateur que pour le récipiendaire, qui consiste pour le premier à récupérer au moins autant qu'il donne et pour le second à espérer rendre moins qu'il n'a reçu. Bah, il arrive que tous ces beaux équilibres soient faussés. Ensuite, on est bien obligé de parler des suites de la crise chinoise. Nouvelle occasion de constater que le pouvoir des États pour réguler les crises économiques qui peuvent les agiter est finalement assez limité. C'est une situation plutôt nouvelle qui, bien évidemment, est une des conséquences, une autre, de la mondialisation. Il ne faut sans doute pas s'en réjouir. De là à dire que les États n'ont pas de responsabilité dans ces crises, c'est autre chose. C'est tout le problème des choses qu'on laisse faire et puis dont on ne contrôle pas les conséquences. Et puis pour finir, toujours dans les suites du crack chinois, crack rebond et maintenant que vais-je faire, chantait Gilbert Bécaud dans une chanson assez ancienne déjà, qui évoquait les suites d'une rupture sentimentale. Ben, la même question se pose après les chocs et autres ruptures en bourse de la semaine dernière. Certes, on assiste à un rebond. Que faut-il en penser? Que faut-il en attendre?
Et pour ma part, un texte extraordinaire de Jean-Robert Safasson qui se porte à la défense de ces mal-aimés, les impôts et les taxes. Voilà, Jean-Robert Safasson qui taille en pièces une étude du Fraser Institute. On y reviendra. On parle également, tiens, la semaine prochaine, en fin de semaine pour être plus précis, si vous cherchez les ministres des Finances du G20 et les directeurs de leur banque centrale, eh bien, ils vont tous être à Ankara pour se réunir et discuter de l'économie mondiale. Ils font ça une fois par an et on se demande vraiment ce que fait Ebola quand on en a besoin. Finalement, accueillir des investissements, comment, pas des investissements, mais des réfugiés et des immigrants, est-ce que c'est payant ou est-ce que c'est des voleurs d'emploi? Un texte intéressant du Monde sur la question. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Ah, au Québec, il y a une culture traditionnelle de centaines, de dizaines, il y a peut-être eu plus que 1000 programmes pour aider les entreprises, leur fournir des subsides, des subventions, des revenus, des prises de participation, des prêts, des financements préférentiels, des conditions majorées, bref, toutes sortes de cadeaux. Est-ce qu'il est temps de faire le ménage?
Oui, la question qui sourd sous vos propos, cher François, c'est est-ce qu'on fait des cadeaux injustifiés à certaines entreprises? Bah, il semble bien que ça puisse arriver, et même là où on s'y attend le moins. Est-ce qu'on doit subventionner une entreprise qui vend de l'alcool, par exemple?
Oui.
Vous voyez très bien de qui je parle. Alors, peut-être, mais est-ce qu'elle doit être privilégiée?
Oui.
Écoutez, d'accord, très très bien, il est un peu tôt quand même pour prendre des décisions de ce genre, mais on ne sait jamais.
Non, plus tard, je serai plus capable.
Ah oui, tout s'explique. Alors, Denis Le Sar, dans la presse, s'est intéressé à la question. Et sous le titre d'un article qui s'appelle « Un grand ménage s'impose ». Ça en dit déjà, je ne sais pas si vous allez être exactement sur la même position que lui. Le gouvernement du Québec devrait donner un grand coup de balai à la Société des alcools, à l'Agence du revenu, de même que dans la querelle de subventions aux entreprises, constate la commission sur la revue des programmes gouvernementaux présidée par l'ex-ministre Lucienne Robillard, dont la sobriété est une légende. Le président du Conseil du Trésor, je n'en sais absolument rien, j'ai dit ça comme ça. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, devant les députés libéraux réunis à huis clos hier, a brossé à grands traits un tableau du second rapport de la commission qui doit être rendu public la semaine prochaine après un an de travail, représentant 2 millions de dollars de budget. Avant tout, le gouvernement compte rendre permanent ce mécanisme de révision des programmes. Un bureau sera créé au sein du Conseil du Trésor et un nouveau comité ministériel sera formé, ce qui pérennisera l'exercice. Cette réflexion deviendra aussi incontournable que la loi interdisant les déficits ou que les contributions au fonds des générations. Les questions de gouvernance et la pérennisation de la revue des programmes occupent une place prépondérante dans le rapport scindé en plusieurs volumes. Le gouvernement Couillard a reçu le document au début de l'été. Comme le révélait alors la presse, la commission relève un grave manque d'efficacité à la SAQ et recommande d'abord d'en reconsidérer le modèle d'affaires, soit le monopole dont jouit actuellement la société d'État. Sans en faire une recommandation, il suggère des pistes pour contourner ce manque d'efficacité sans augmenter les prix pour les consommateurs. Il importe que le gouvernement protège ses revenus, insistent les auteurs du rapport. Il suffirait de remplacer les dividendes par une augmentation de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques vendues par la SAQ. Cette majoration n'aurait pas d'impact sur le prix de vente final, puisqu'elle viendrait remplacer le dividende versé à l'actionnaire. Le gouvernement pourrait également introduire une taxe sur la consommation à taux particulier pour l'alcool, permettant ainsi au montant de la taxe de fluctuer en fonction du prix du produit vendu, poursuivent les auteurs. Les chiffres relevés par la commission Robillard sont embarrassants pour la société d'État. Comparés à celles d'autres organismes semblables, les frais administratifs de la SAQ sont beaucoup plus élevés. Ainsi, pour la période 2010-2014, la SAQ avale 21% de ses ventes nettes en frais d'administration.
Le niveau... verre par bouteille.
Oui, c'est quand même beaucoup. Hein. Si on pense qu'un chiffre moyen appliqué à une entreprise moyenne est en général plus proche de 10%, bah on se dit que le double, c'est difficile à expliquer. Mais bon, on va voir. Bien, pour 2014, la LCBO, alors pour ceux qui l'ignorent, c'est la Régie des alcools de l'Ontario, demandait 16% en frais d'administration. Et en Colombie-Britannique, là on arrive sur les valeurs que je citais, 10%. Et dans plusieurs États américains, c'est 8%. Mais on sait bien, ça doit être chez les Mormons peut-être ça. Non, je sais pas. On ne remet pas en question les relations de travail ni le nombre d'employés, mais la situation de monopole de la SAQ est visée comme source du problème. D'ailleurs, ce n'est pas un monopole absolu, parce que si on va chez Metro ou chez IGA, on peut acheter de l'alcool.
Non, mais c'est un monopole absolu, puisque c'est dans les grandes surfaces que vous pouvez acheter, ce ne sont pas les mêmes produits. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vendre les produits d'appellation contrôlée ou qu'on va retrouver à la SAQ.
Bon, c'est une différence par référence, mais pas sur l'alcool en tant que tel. Cela dit... Essayer d'acheter de l'alcool dans les grandes surfaces, tout ce qu'ils vendent est absolument infect.
Oh.
Ah non, écoutez, là, moi, j'ai vraiment fait des comparaisons. J'ai dû tout acheter. Rien n'est buvable.
Non, mais arrêtez, ou alors je vais finir par penser que vous vous intégrez très mal à la société québécoise. Voilà.
Pas du tout. J'essaie de distinguer où sont les bonnes adresses. Et je dois dire, je vais prendre la défense de la SAQ dans votre suite, hein, François. La SAQ fait une très, très bonne sélection de Bordeaux. Absolument excellente. Et le seul problème qu'on a, c'est qu'il y a un peu trop de sulfite, mais ils n'y peuvent rien, il faut bien lui faire traverser l'Atlantique. C'est comme ça. Mais bon, à partir d'une certaine dose, on ne sent plus du tout les sulfites. La performance de l'agence québécoise périclite, car les frais d'administration sont constamment en croissance, un retour à la réalité, c'est terrible, et les perspectives ne laissent pas prévoir de renversement de cette tendance. Comme l'Agence fédérale du revenu, Québec devrait exiger davantage des administrateurs du fisc. En 2010, Revenu Québec faisait mieux que l'Agence fédérale, mais cet écart favorable avait fondu rapidement en 2013-2014. En termes d'efficacité, Revenu Québec est maintenant sur un pied d'égalité avec l'Agence fédérale en 2014. Revenu Canada devrait lui damer le pion à l'avenir toutefois. Au cours des dernières années, le fisc québécois a dépensé chaque année davantage au nom de la lutte contre l'évasion fiscale, alors que Revenu Canada a réduit ses dépenses, d'où un gain d'efficacité. Est-ce qu'il faudrait en déduire que les fonctionnaires de Revenu Québec abusent de ce qu'on peut leur donner à la SAQ?
Non, mais en fait, on leur a demandé chaque année des objectifs plus serrés, alors on irait chercher plus de monde pour les remplir à chaque année. Et ce qui est un petit peu, dans ce cas-ci, injuste, c'est de dire qu'une fois que Québec envoie son avis de cotisation, eh bien, l'Agence de revenus du Canada passe ensuite parce qu'on a un programme d'échange de données.
Oui, bon, alors... c'est bien là, vous avez remis les choses en place. Les programmes d'aide financière de toute farine offerts par Québec mériteraient aussi un coup de balai pour mettre fin au chevauchement. C'est près de 1 milliard que le gouvernement distribue chaque année aux entreprises en aide directe ou indirecte. L'argent passe par un écheveau de 84 programmes administrés par 12 ministères différents. Si l'on ajoute à cela l'aide indirecte, c'est plus de 500 organismes qui sont dispersés sur la ligne de feu. Les occasions de chevauchement sont nombreuses, sans compter que des programmes peuvent survivre, même si leur raison d'être n'est plus évidente. Déjà au ministère de l'économie, le ministre responsable Jacques Daoust a entamé un virage à 180 degrés sur l'assistance aux entreprises. Des prises de participation remplacent de plus en plus les subventions. Et vous voyez, tout ça, ça mène à ce qu'on appelle les niches fiscales. Hein, on connaît bien ça. Et il y a un mot que j'aime beaucoup de je ne sais plus quel politicien, je crois que c'est un Français, qui disait « Attention, attention, c'est très difficile de supprimer les niches fiscales parce que dans chacune d'entre elles, il y a un chien qui aboie ».
Tout à fait. Mais juste quelques considérations avant qu'on passe à un autre sujet. La commission de révision des programmes fait un double emploi avec le vérificateur général. Normalement, si on devait éliminer un programme inutile, on se dirait il y a un officier de l'Assemblée nationale qui est chargé de vérifier ce que le gouvernement fait et si c'est efficace. Et c'est le vérificateur général qui est un officier indépendant du gouvernement. Or, on le sait, la tentation pour un gouvernement, c'est d'avoir l'air de faire des choses. Alors, on nomme une commission de révision des programmes tout en n'augmentant pas les budgets du vérificateur général. Et en plus, ça nous permet de nommer à la commission de révision des programmes les gens dont on sait ce qu'ils vont dire et qui vont dire ce qu'on veut qu'ils disent. C'est le vieux système des consultants qui consiste à faire embaucher des gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour pouvoir dire après, c'est pas moi qui le dis, c'est un consultant. Donc, si le consultant se trompe, c'est sa faute. Et si j'ai raison, je suis brillant parce que j'ai retenu le bon consultant. C'est une façon de gouverner par délégation qui est assez fatigante. Allez, c'est le moment de relever une tâche difficile. C'est le moment où on se porte à la défense des impôts. Et quand je dis « on », je parle de Jean-Robert Sans-Façon dans Le Devoir du 31 août, un texte intitulé « La lentille déformante ». Selon une étude publiée la semaine dernière par le Fraser Institute, la famille canadienne moyenne consacre une plus grande part de ses revenus à payer des taxes et impôts qu'à l'achat de biens essentiels. Et l'écart s'accroît dans le temps. Surprise? Pas du tout. Le Fraser Institute est bien connu des médias qu'il alimente chaque année de dizaines d'études au vernis scientifique, débouchant sur une même conclusion attachée au texte comme un grelot au cou d'une vache. Les gouvernements prennent trop de place et coûtent trop cher. L'organisme qui se dit indépendant parce qu'il ne reçoit pas de subventions dispose quand même de beaucoup d'argent dont il refuse de divulguer l'origine. Ce qu'on sait toutefois, c'est que tous ces dons sont admissibles à des crédits d'impôt puisque l'Institut s'est fait reconnaître comme organisme d'éducation populaire par Ottawa. Et j'en profite pour dire que Oxfam a eu de la difficulté à se faire reconnaître comme OBNL par Ottawa parce qu'on trouvait qu'ils aidaient des gens qu'Ottawa ne voulait pas qu'on aide. Cela dit, parce que les sujets traités ont beaucoup d'écho dans la presse, certaines de ces études méritent parfois d'être commentées. C'est le cas de l'indice de taxation du consommateur rendu public la semaine dernière. Selon son auteur, Charles Lamam, la famille canadienne moyenne a vu la part de ses revenus totaux consacrés aux taxes et impôts passer de 33,5 à 42,1 depuis 1961, alors que la part dévolue à l'achat des trois biens essentiels, soit la nourriture, les vêtements et le logement, qu'est-ce que les vêtements font dans les biens essentiels, enfin, a chuté de 56,5 à 36,6. Sous-entendu, les gouvernements sont de plus en plus voraces et nous coûtent plus cher que ce que nous consacrons aux biens essentiels qui, eux, sont fournis par l'entreprise privée. Allons-y voir. D'abord, les dépenses. En 50 ans, le panier de consommation des ménages en pays développés a beaucoup évolué. À mesure que les revenus augmentaient, la part consacrée aux besoins de base diminuait. La technologie et le commerce international expliquent ce phénomène. De même en est-il des vêtements qui coûtent moins cher en proportion du salaire qu'au début des années 60 et même des années 90. C'est aussi le cas d'une foule de biens de consommation considérés comme des objets de luxe à l'époque, tels les électroménagers, l'électronique et même l'automobile. Quant au logement, si les ménages y consacrent encore une bonne partie de leurs revenus, c'est que les coûts de construction, qui incluent une forte proportion de salaire, ont suivi la hausse dans l'ensemble de la société. En somme, il n'y a rien de surprenant à ce que, ensemble, ces trois biens essentiels occupent une part moins importante des dépenses de la famille d'aujourd'hui. Passons aux taxes et impôts, que l'étude accuse d'occuper une fraction de plus en plus importante des revenus depuis 50 ans. Les raisons sont nombreuses et connues, mais rappelons-en quelques-unes. Reconnaissons d'abord que l'État rend une quantité de services beaucoup plus vaste qu'à l'époque. En 1961, les religieux dirigeaient les écoles et y enseignaient. Il n'y avait ni garderie, ni maternelle. Les seuls collèges étaient privés et ne recevaient que quelques centaines d'élèves par région. L'université coûtait le plein prix et les jeunes n'avaient droit à aucune aide publique. En santé, il fallait payer pour voir un médecin et fréquenter l'hôpital. On utilisait peu de médicaments, on soignait moins de maladies graves et la technologie était réduite à sa plus simple expression. Cela a un prix, tout comme les attentes que nous avons à l'endroit des gouvernements pour la protection de l'environnement, l'inspection des aliments, la recherche scientifique, la sécurité publique, les transports collectifs. De plus, contrairement aux biens qu'on peut importer ou produire à moindre coût grâce aux gains de productivité, le coût des services publics suit nécessairement l'augmentation des salaires et des prix du reste de la société. Par ailleurs, une partie des taxes et impôts qu'on paie de nos jours constitue une forme d'épargne ou d'assurance. On pense au régime des rentes et aux diverses assurances publiques, l'assurance emploi, l'assurance parentale, l'assurance médicaments et même l'assurance automobile. Un indice de taxation qui fournirait un portrait scientifique de l'évolution des coûts des services publics offerts en fonction de la quantité et de la qualité aurait son utilité. Malheureusement, celui du Fraser Institute n'est que de la propagande au service d'une cause, toujours la même. Merci Jean-Robert, sans façon de remettre les pendules à l'heure, ça fait du bien.
Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, l'amour le manque la tournée, et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien.
Cœur de pirate qui chantait adieu. Je ne savais pas que Cœur de pirate nous écoutait et encore moins qu'elle était sensible à nos réalités. Alors merci Cœur de pirate. Merci à Rémi Hermoso aussi qui assure la mise en onde de cette émission et les extraordinaires choix musicaux que vous entendez depuis quelques années. Voilà. Parlons de choses sérieuses. Parlons d'économie. Parlons de choses sérieuses ou d'économie, un des deux.
Oui, alors, il faudrait prendre au sérieux les gouvernements pour continuer dans cette veine. Et les gouvernements qui aiment laisser croire qu'ils contrôlent justement l'économie. Ben, les apparences sont un peu difficiles à entretenir sur ce terrain-là, ces temps-ci pour Pékin. Ça a intéressé Éric Desrosiers, notre cher Éric Desrosiers, qui nous a tant alimenté au cours de ces années et qu'on ne remerciera jamais assez, et qui a écrit dans Le Devoir un article joliment intitulé « Grosse commande ». Les places boursières ont vécu de grandes émotions la semaine dernière en s'infligeant rien de moins qu'un lundi noir, suivi de pénibles séances de bungee qui se sont conclues par une remontée record. Les marchés ont largement surréagi. Il n'y a pas une remise en cause complète des grands équilibres financiers mondiaux aujourd'hui, a résumé vendredi à l'AFP, Agence France-Presse, un analyste financier manifestement amateur d'euphémisme. On savait pourtant depuis longtemps que je l'ai entendu à de nombreuses reprises sur de nombreuses chaînes télévisées, « Vous inquiétez pas, Madame la Marquise, tout va bien », enfin, on connaît la chanson. On savait pourtant depuis longtemps que la plupart des bourses étaient mûres pour une bonne correction à la baisse après plusieurs mois de forte hausse. Tout a commencé avec les problèmes financiers et économiques de la Chine, deuxième économie au monde et moteur de 40% de la croissance mondiale l'an dernier. Là encore, tout le monde savait que sa bourse ne pouvait que redescendre après s'être appréciée de 150%, 150%, de novembre à juin, de novembre à juin. On savait aussi que son économie tourne de plus en plus au ralenti depuis qu'elle a entrepris sa nécessaire mais délicate transition d'un modèle de croissance reposant sur les exportations de biens et la construction à un modèle basé sur la consommation intérieure et les services. Et puis, même si, comme plusieurs observateurs le pensent, Pékin rate sa cible de croissance annuelle de 7%, son économie a tellement cru depuis trois décennies qu'une croissance de 5% cette année donnerait le même allant à l'économie mondiale que ses 14% enregistrés en 2007. On a aussi fait tout un plat de la décision de la Chine de tripoter les taux de change en réduisant de 2% la valeur de son yuan par rapport au dollar américain. C'était oublié un peu vite que presque toutes les autres grandes économies étaient entrées avant elle dans la guerre des devises et qu'à lui seul, le yen japonais a été déprécié depuis deux ans de 40% par rapport au yuan. Alors pourquoi toutes ces angoisses? C'est la faute du gouvernement chinois lui-même, disait cette semaine l'analyste économique du Financial Times, Martin Wolf. Avoir la batterie de mesures monétaires, budgétaires et réglementaires déployées en catastrophe pour corriger la situation, on s'est dit que les problèmes de la Chine étaient probablement plus graves qu'elle ne le prétend. La confusion et l'inefficacité des moyens mis de l'avant jettent aussi un doute sur le degré de maîtrise d'un régime qui, à défaut d'être démocratique, semblait au moins jusque-là avoir la situation bien en main. Il y a encore deux ou trois ans, les autorités chinoises paraissaient suivre un cap clair, ce qui était plutôt rassurant. Mais le ralentissement économique, bien plus prononcé que prévu, semble échapper au gouvernement qui est moins assuré de ce qu'il convient de faire, a noté dans le journal Le Monde, une économiste de BNP Paribas. C'est oublier comment Pékin en embrasse large actuellement, disait cette semaine un économiste réputé, Stephen Roach. En plus de sa grande transition économique, le gouvernement chinois essaie de moderniser son système financier, de réformer sa monnaie, de limiter les excès en matière boursière et de crédit et de combattre la bulle immobilière sans parler de son virage vert en économie, de sa lutte contre la corruption et de son affirmation plus musclée sur la scène internationale. Les interactions entre tous ces objectifs pourraient poser un défi difficile à relever, résume l'ancien président de Morgan Stanley en Asie, visiblement amateur d'euphémisme lui aussi. Et puis, ces commentaires sur les hésitations et les maladresses de la Chine dans la gestion de ses affaires sont un peu trop faciles quand on sait le défi que représente pour n'importe quel gouvernement le simple fait de comprendre son économie complexe et mondialisée avant même d'essayer de la guider. Il n'y a qu'à voir, pour s'en souvenir, comment la seule question du moment de la première hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine torture depuis des mois ses dirigeants et les experts du monde entier. Cela n'empêche pas, bien sûr, les politiciens de s'attribuer ou d'attribuer à leurs adversaires une influence déterminante quand cela fait leur affaire. C'est particulièrement le cas lors des élections, comme celle en cours au Canada. Dans les faits, comme chacun sait, les gouvernements ont assez peu de marge de manœuvre en matière économique, même s'ils n'ont pas la responsabilité d'un pays de presque 1,5 milliard d'habitants. Ils en ont encore moins depuis que la grande récession les a forcés à s'endetter et à pousser à leurs limites leur politique monétaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on s'en fait tant avec le ralentissement économique chinois. S'il fallait que le moteur chinois cale avant que les États-Unis ou l'Europe n'aient retrouvé toute leur vigueur, les gouvernements de la planète se retrouveraient à leur tour bien dépourvus dans la gestion de leur économie. Ce n'est pas très rassurant, cette analyse, elle est tout à fait juste de mon point de vue.
Non, elle n'est pas juste et on verra pourquoi dans quelques instants.
J'en ai le souffle coupé.
Oui, je prends la balle au bon parce qu'il faut rétablir les faits ici. On sait maintenant d'où vient la crise chinoise. Ça n'a rien à voir avec une économie orientée totalement vers l'exportation, une bulle boursière qui n'a aucun sens ou une gestion inepte des affaires. Non, c'est la faute d'un journaliste économique. Monsieur Wang Xiaolu, pour le nommer, Monsieur Xiaolu, a été mis en détention récemment puisqu'il aurait écrit dans un journal économique chinois sérieux un mot disant qu'éventuellement les investisseurs d'État chinois se préparerait ou envisagerait la possibilité de retirer leur argent des placements boursiers. Ça aurait provoqué le crash boursier, ébranlé la planète. Eh bien, sachez que M. Xiaolu a avoué ses crimes, mais il est actuellement en détention. On va faire le ménage là-dedans. Ça n'a aucun sens. Voilà.
Oui, ça me rappelle cette triste histoire de Staline qui riait beaucoup en racontant qu'on avait, pendant les années noires, fait avouer à un gamin de 17 ans qu'il avait écrit Eugène Onéguine. Mm-hmm. Et quand on avait été voir ses parents, on leur avait annoncé ça comme une bonne nouvelle. Un peu triste, hein. Mm-hmm. Bon, je ne veux pas faire de mauvais humour, mais pour rebondir sur ce que vous avez dit et qui me fait froid dans le dos, sachez quand même que les 6 grandes banques canadiennes ont engrangé des profits de 9,2 milliards cette année. Pas mal, hein. Et malgré la chute du pétrole avec ses conséquences, etc. Alors, vous pouvez aller dans vos journaux habituels pour voir le palmarès, hein. Il est brillant. Le grand gagnant, c'est la Banque de Montréal. Mm-hmm.
En fait, on sait que les banques canadiennes vont bien dans deux situations, c'est-à-dire quand l'économie va mal et quand l'économie va bien. Hausse de la rémunération. Eh bien, sachez qu'au Canada, la rémunération moyenne des salariés, roulement de tambour, est de 954 $ et 60 sous. Voilà. Alors, regardez vos bulletins de paye, tout le monde. Si vous gagnez moins que ça, vous êtes en bas de la moyenne. Bon, ceci dit, on va être équitable. Les salaires sont plus élevés dans la région de Toronto et celle de Vancouver, bien sûr. Et le coût de la vie va avec...
Oui, cela dit, l'économie du Québec a encaissé un nouveau recul en mai. Hein. C'est le troisième en autant de mois. Le produit intérieur brut réel a diminué de 0,5% en mai, après s'être contracté de 0,3% en avril et de 0,1% en mars. C'est pas terrible quand même. Et puis c'est une pente ascendante. Alors, on surveille ça de près.
Marché des valeurs mobilières. On le sait, le gouvernement fédéral et l'Ontario essaient de mettre en place une agence pan-canadienne qui effacerait les agences provinciales. Jusqu'à maintenant, le Québec s'y est largement opposé, l'Alberta également, mais l'Alberta, on ne sait pas s'ils vont maintenir leur position puisque le nouveau gouvernement néo-démocrate n'a pas fait connaître ses couleurs sur la question. Eh bien, sachez qu'on n'est quand même pas seul parce que le Manitoba, lui non plus, ne bouge pas et entend bien conserver sa compétence sur ces domaines.
Je ne sais pas si vous étiez dans les rues de Montréal le jeudi dernier, François, mais si c'est le cas, vous avez peut-être croisé Brian Kent. Alors, vous ne savez pas qui c'est, mais je vais vous le dire. Eh bien, c'est un monsieur qui veut réaliser un road trip de plus de 40 000 km en 101 jours avec quoi? Mais avec une voiture électrique. Et il était de passage à Montréal. Et il ne faisait pas de pollution.
On est au courant, c'est fait. Alors, l'indicatif nous signale déjà la fin de cette première demi-heure. Restez là, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, si vous cherchez les directeurs de banque centrale, si vous cherchez votre ministre des Finances et que vous habitez un des pays du G20, eh bien, sachez qu'ils seront introuvables cette fin de semaine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont en Turquie, plus précisément à Ankara. Ceci dit, quand on est à Ankara, en Turquie, c'est parce qu'on est là pour travailler. Sinon, on serait à Istanbul, qui est beaucoup plus agréable, disons-le franchement. Alors, que font-ils? Pourquoi y sont-ils et quels sont leurs défis? C'est le sujet d'un texte d'Aurélia N. de l'agence France Presse qui a été publié dans la presse du 2 septembre, mais je l'ai également lu dans Le Devoir. Quand la Chine ralentira, la Chine toujours elle, les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 essayeront en fin de semaine de calmer les marchés sur le fond de chaos chinois, de ratés dans les pays émergents et d'angoisse monétaire. En avril, les grands argentiers des 20 premières puissances économiques et les grands banquiers centraux exprimaient un certain soulagement pour l'économie mondiale, estimant que les risques de mauvaises surprises avaient diminué. Le constat sera bien différent samedi après 2 jours de réunion à Ankara. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a déjà averti que la croissance mondiale en 2015 serait probablement plus faible que prévu, soit 3,3% jusqu'ici. La capacité de la Chine à atterrir en douceur après des années de croissance explosive sera au cœur des discussions après les accès de panique boursière dans le monde et une dévaluation brutale de sa devise. Mardi encore, la publication de mauvais indices chinois a fait rechuter lourdement les bourses mondiales et le prix du pétrole. L'économie chinoise a les moyens de faire face à court terme à son ralentissement grâce à ses gigantesques réserves de devises. Mais la vraie question est celle de sa mutation vers un modèle de développement plus soutenable, moins dépendant des performances à l'exportation, selon une source gouvernementale qui s'est aussi interrogée sur la fiabilité des statistiques chinoises. On en parlait à cette émission. Les statistiques chinoises ne sont pas fiables. En fait, elles disent ce que le parti a envie qu'elles disent. Les États-Unis attendent, eux, de la Chine qu'elle communique davantage avec les marchés financiers sur ses actions et intentions de politique économique, a affirmé mardi un haut responsable du Trésor américain. Au-delà de la Chine, les États-Unis découvrent des indicateurs mitigés sur leur activité économique. La France a connu une panne de croissance au printemps. Le Canada est entré en récession, comme le Brésil. Aucun pays membre du G20 ne pourra parader à Ankara, pas même la prospère Allemagne, qui n'a aucune envie d'être à nouveau critiquée pour ses insolents excédents extérieurs. J'ai la conviction que ces développements récents des marchés, et ils ne sont pas achevés, ne sont pas de nature à déstabiliser l'économie européenne, voulait croire mardi le commissaire aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'un ministre des Finances, un commissaire aux affaires économiques, n'importe qui s'occupe de finances d'un gouvernement qui vous dit que ça va aller mal dans un avenir proche, va perdre son emploi. Ça, c'est comme un diplomate. Un diplomate qui dit oui veut dire peut-être, il dit peut-être, il veut dire non, et s'il dit non, ce n'est pas un diplomate. C'est un peu la même mécanique. J'ai la conviction que ces développements récents, oui, je viens de le lire, comme lui, les participants au G20 Finance devraient s'employer à rassurer. Parce qu'il y a beaucoup de surinterprétations des développements en Chine, il sera important que les leaders du G20 réaffirment leur conviction de coordination, indique à l'AFP Sébastien Jean, directeur du Centre de recherche économique CEPII. La promesse d'entente cordiale sera d'autant plus importante que s'annonce à plus ou moins brève échéance ce que l'économiste qualifie de « moment vraiment sensible », la première hausse des taux aux États-Unis après des années de largesse monétaire. La question des effets secondaires à l'étranger et des politiques monétaires nationales est un vrai sujet qui ne sera pas réglé en 6 mois, mais qui doit rester au cœur des réflexions du G20 selon une source gouvernementale. En 2013, la simple évocation par la Banque centrale américaine, la Fed, d'une future hausse de taux avait ébranlé les pays émergents, désertés par des investisseurs en quête de meilleurs rendements aux États-Unis. Le G20 devra aussi s'employer à doucher les interprétations selon lesquelles le monde serait en guerre des monnaies, un terme qui a désormais les honneurs de la une du Financial Times, quotidien de prédilection des marchés. Selon une source proche des travaux du G20, la glissade des devises de plusieurs pays émergents, vue comme une réaction à la hausse du dollar et non comme une politique volontariste destinée à rafler des marchés, n'est clairement pas un sujet contentieux lourd. Le G20 devrait aussi se pencher sur la lutte contre l'optimisation fiscale des grandes multinationales, chantier mené par l'OCDE, et qui doit franchir une nouvelle étape en fin d'année. Autre discussion à prévoir, une meilleure coordination de la lutte contre le financement du terrorisme, sujet cher à la France et d'autant plus brûlant que la réunion a lieu en Turquie, pays limitrophe de la Syrie où sévit Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Les Français tenteront aussi de mobiliser des fonds pour enrayer le réchauffement climatique avant une grande conférence sur le climat début décembre à Paris. Le cycle de réunions au niveau des ministres, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement, se déroule cette année en Turquie et l'année prochaine en Chine. Selon des rumeurs insistantes, il pourrait avoir lieu en 2017 en Allemagne. La bourse, ça monte, ça descend, ça redescend, ça remonte. En fait, tout est conçu pour que quand vous y mettez de l'argent, ça descend. Quand vous retirez votre argent, ça remonte ensuite.
Oui, c'est vrai que ça fait souvent cet effet-là. Et puis, c'est vrai qu'aussi, on se désespérait en voyant les bourses plonger dans la suite de celle de Shanghai. Mais on s'est vite réjoui de les voir repartir à la hausse ces jours derniers. Mais est-ce que c'est si réjouissant et est-ce qu'on est vraiment sorti de la tempête? Ça a intéressé un journaliste du Monde, Frédéric Cazenave, qui a intitulé son article « Crac, rebond et maintenant ». Les investisseurs et autres boursicoteurs, ces gens auxquels vous faisiez allusion, qui ont réussi à bien déconnecter cet été, vont avoir une drôle de surprise à la rentrée. Le récent crack de la place de Shanghai et l'onde de choc qui s'est ensuite propagée à l'ensemble des indices mondiaux a clôturé une période estivale pour le moins houleuse. Ballottée jusqu'à la fin juillet par la crise grecque, les marchés déjà nerveux à l'approche du resserrement monétaire de la réserve fédérale américaine, attendu pour le mois de septembre, n'ont pas digéré la dévaluation du yuan la devise chinoise survenue à partir du 11 août. Pour les investisseurs, c'est un signe que l'économie de l'Empire du Milieu ralentit fortement. Cette crainte, alimentée par des statistiques économiques décevantes, a fait plonger la bourse, la bourse de Shanghai de 16% lundi 24 et mardi 25 août. Je reviens d'ailleurs une seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure, François, qui était fort juste. Les statistiques chinoises, eh bien, c'est ce que le parti veut entendre. Alors, si vous voulez avoir un indice...
Ah, c'est ce que le parti veut que vous entendiez.
Oui, il veut que vous entendiez. Et à force de l'entendre lui-même et de vouloir que vous l'entendiez, tout le monde entend la même chose. C'est ce qu'on appelle certainement le consensus. Mais si vous voulez avoir une photographie...
C'est quoi un consensus?
Oui, bah, écoutez, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots parce que dans ce mot-là, il y a des digressions absolument abominables. C'est de surveiller la consommation d'électricité parce que ça, c'est un indice absolu. Vous pouvez parfaitement, là, vous rendre compte si vraiment on est en développement ou pas. Je ferme cette parenthèse. En baissant ses taux, la Banque centrale chinoise a ensuite permis de limiter quelque peu la casse. Par effet de domino, c'est toute la planète finance qui a tremblé. Dès lundi à Paris, le CAC 40 avait ainsi perdu près de 9% en séance, sa plus lourde chute depuis 2008 pour finalement se redresser. Et si les indices étaient mieux orientés les jours suivants, à la faveur de la publication d'un chiffre meilleur que prévu pour la croissance du deuxième trimestre aux États-Unis, l'été a été particulièrement maussade. Depuis le 11 août, le CAC 40, mais aussi le DAX à Francfort et le FTSE à Londres, ont perdu plus de 10%. Sur la même période à New York, le Dow Jones a abandonné 5%. Et maintenant ? Les prochaines semaines seront agitées. Après le rebond entamé mercredi, il faut s'attendre à de nouvelles phases de volatilité, car le marché doit s'ajuster à une croissance économique mondiale désormais plus faible qu'attendue. D'ailleurs, cette prophétie s'est réalisée. Vous n'avez qu'à regarder les indices d'aujourd'hui et d'hier. Effectivement, on recommence à faire du gymkhana, pour employer une allégorie équestre. Il y a un moment, d'ailleurs, dans ce genre d'exercice où on finit par se casser la figure. Il y avait un truc... Oui, il y avait... Vous connaissez ce mot de... C'est un peu grossier, mais je vais me permettre, c'est la dernière. De Mermoz, qui disait « À force de jouer au con, on finit toujours par gagner. Mm-hmm. » J'aime beaucoup. Bon. Après un tel choc, les marchés devraient continuer à consolider en septembre, confirme Christophe Donnet, stratégiste de Pictet Wealth Management. Ensuite, tout dépendra de l'économie chinoise. Dans Pictet Wealth Management, il y a une espèce de, on dirait, vous savez là, ces oiseaux avec le bec qui tapent sur les arbres. Alors c'est, et puis dans le trou, on finit par trouver les actions, peut-être, je ne sais pas. Si les autorités parviennent à soutenir le rythme de croissance à un niveau proche de 6% à 6,5%, les indices devraient repartir de l'avant. C'est notre scénario. J'adore les scénarios qui multiplient les conditionnels, ça ne mange pas de pain. En cas de ralentissement plus marqué de l'économie de la Chine, c'est une autre histoire. Une récession dans ce pays ne serait plus exclue. Elle y entraînerait une crise financière majeure et donc sur l'ensemble de la planète, admet M. Donnet. J'avoue que M. de la Palice dirait à peu près ça aussi. Mais lui gagnait beaucoup moins d'argent. C'est peu dire que la prudence est de mise. Mon Dieu, mais écoutez, arrêtez les banalités là, dites-nous des choses maintenant. Dans une note du 26 août, Amundi, le premier gestionnaire d'actifs en Europe, souligne qu'il est trop tôt pour accroître l'exposition au risque, c'est-à-dire aux actions. Accroître l'exposition au risque, c'est merveilleux. Je me propulse à moteur dans la ville. Bon, bref. Où est-ce que j'en suis, moi ? Même son de cloche au CMCIC, c'est une banque française. Nous conseillons à nos clients de rester prudents sur les actions tant que les taux souverains ne sont pas stabilisés, ce qui dépend de la confirmation de la croissance et de l'impact du baril de pétrole sur les anticipations d'inflation et qui fait que votre fille est muette, bien entendu. Souligne François Duhaine, son directeur de la stratégie. Ça doit être un boulot bien payé, je rêve d'un truc pareil. Bien. Car le pétrole, dans le cours du WTI, bon, vous savez, c'est le...
Le pétrole du Texas.
La qualité du pétrole, voilà, exactement. Ouais. Depuis, a chuté à New York de 30% depuis le début du mois de juillet à 42 dollars. Il devrait rester durablement bas. Un niveau certes favorable au vieux continent, mais qui pèse sur les pays producteurs et engendre des pressions déflationnistes. Quand j'entends le mot « durablement » dans la bouche d'un économiste, je pense irrémédiablement à ce que Keynes, le grand Keynes, on se prosterne, disait de la guerre « elle ne durera pas car personne ne peut la financer ». Bon, voilà ce que c'est que la prévision en économie. À ces risques s'ajoutent les incertitudes entourant la politique monétaire de la Fed. Plus que le ralentissement de la Chine, c'est la nécessaire transition en termes de politique monétaire qui nous préoccupe et nous incite à réduire notre exposition aux actions, explique Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. L'ingestion massive de liquidités, qui depuis 2009 dope les marchés de façon parfois déconnectée de la réalité économique, touche à sa fin. C'est ça le génie de l'économie, c'est que c'est un truc qui est déconnecté de lui-même. qui est censé parler d'une réalité, et puis en fait, pas du tout, il parle d'autre chose. C'est extraordinaire. La vie est extraordinaire, le monde est fabuleux. Or, ce changement de cap arrive au moment où l'économie mondiale manque de vigueur et ne justifie pas les valorisations boursières actuelles. Oui, ça doit faire à peu près 15 ans qu'on s'en aperçoit. Hein. Surtout, il intervient lorsque... Qu'est-ce que je dis, 15 ans, 25 ? Il intervient lorsque l'inquiétude à l'égard de la Chine engendre des sorties de capitaux du pays qui ont eux aussi pour effet de réduire la liquidité sur les marchés. Avant le choc boursier de cette semaine, la Fed semblait prête à remonter ses taux qui sont maintenus proches de zéro depuis fin 2008. Mais depuis, ce scénario est remis en cause. Ce flou n'est pas du goût des investisseurs. Les atermoiements de la Fed à relever ses taux tandis que les indicateurs de l'économie américaine sont au vert sont préoccupants et continue à faire douter de la solidité de la croissance malgré les chiffres récents encourageants, explique M. Denise. Surtout à force de tarder, la Fed prend un double risque, ça c'est capital. Le premier est de se trouver sans moyen d'action pour soutenir la croissance lorsque le cycle économique déjà bien engagé aux États-Unis viendra à ralentir. Un autre est de créer des excès sur les marchés financiers. Là, on a vraiment fini sur quelque chose qu'il faut retenir, parce que ça, c'est...
Il faut que les taux d'intérêt de la Fed remontent, mais ceux aussi de la Banque du Canada ou de toutes les banques occidentales, absolument. C'est nécessaire.
Tout m'énerve, tout me rend fou. Le vent dans ma tête, le drame dans mon cœur. Tout m'émiette, tout me rend mou. Le bruit de la fête, la lumière de la rue. Tout le monde marche, la corde au cou, il cherche son clou. Je suis pendu au bout du fil. Et j'attends que tu raccroches. Tu as renversé tous nos accords. Tout me rend fou. Le vent dans ma tête, le drame dans mon cœur. Tout m'émiette, tout me rend mou. Le bruit de la fête, la lumière de la rue. Tu fais toujours semblant de mourir à chaque jour. Ton souffle de plus en plus s'allonge. Et tu tombes comme une fille morte. Et moi j'attends que tu raccroches. Il pleut tellement, j'en ai la chair de poule. Mon cœur se balance dans la cour. Des bouquets de nerfs, les fleurs de ta peau.
Eh bien, croyez-le ou non, cette musique tranquille s'intitulait « Tout m'énerve », mais on n'est pas un paradoxe près en parlant d'un type qui s'appelle Urbain Desbois. Alors, voilà, c'est fait, c'est dit. Dernier sujet, donc, l'immigration. Immigration qui fait un tabac ces temps-ci pour différentes questions. Aux États-Unis d'abord, où, rappelons-le, il y aurait à peu près 12 millions de personnes aux États-Unis qui sont en situation illégale sur le territoire, ce qui pousse Donald Trump à vouloir bâtir un mur au sud et un autre candidat, je ne me rappelle plus de son nom, à vouloir en bâtir éventuellement un au nord avec la frontière canadienne. Il faut arrêter ça, ces affaires-là, alors que l'économie américaine s'effondrerait probablement si elle perdait ses 12 millions de 24 millions de mains qui, finalement, travaillent à son économie pour moins que ce que ça vaut généralement. Pendant ce temps-là, en Europe, on l'a vu, c'est un drame humain absolument innommable. La quantité de gens qui sont disparus en mer ou qui essaient actuellement de gagner l'Angleterre ou l'Allemagne ça ne se dit pas. Ce sont des foules qui deviennent très difficiles à gérer pour certains États de l'Est de l'Europe. À la décharge de l'Allemagne, la République s'est engagée à accueillir jusqu'à 800 000 réfugiés cette année. 800 000 réfugiés dans une population de 80 millions de personnes, c'est 1 % de la population que les Allemands s'apprêtent à accueillir. C'est énorme. Tout ça à cause, évidemment, des conflits, de la misère, de la pauvreté en Afrique. Bref, l'immigration, c'est un sujet chaud. La grande question, c'est l'immigration dans l'économie, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ce sont des voleurs d'emploi, comme on l'entend souvent, ou est-ce que c'est un apport positif? Eh bien, Jean-Baptiste Jacquin du Monde s'est posé la question, ça a été repris dans Le Devoir d'aujourd'hui. Son texte s'intitule, et ça donne la réponse à la question, « L'accueil, un investissement payant ». Alors que la classe politique française semble tétanisée par la vague de réfugiés et de migrants qui se présentent aux portes de l'Europe, les économistes ont un avis beaucoup plus tranché. Ils sont unanimes à estimer que l'immigration actuelle n'est en rien un danger pour l'économie européenne, même en cette période de faible croissance et de chômage élevé. Aucun économiste n'a jamais réussi à démontrer un lien évident entre immigration et chômage, affirme Thibault Gajdos, chercheur au CNRS, et quand il y a un lien, il est positif pour le marché de l'emploi. Sur une longue période, l'immigration est considérée comme un facteur positif pour la croissance économique et les finances publiques, indépendamment de la situation démographique. La France, qui jouit d'une dynamique plus forte grâce à son taux de natalité, n'aurait pas plus à craindre ou à gagner de l'immigration qu'une Allemagne confrontée au vieillissement de sa population, estiment les experts. La contribution des immigrés à l'économie est supérieure à ce qu'ils reçoivent en termes de prestations sociales ou de dépenses publiques, assure Jean-Christophe Dumont, chef de la division chargée des migrations internationales à l'Organisation de coopération et de développement économique. L'organisme qui regroupe les pays riches a, par exemple, analysé le cas du Royaume-Uni qui, après l'élargissement de l'Union européenne en 2004, notamment la Pologne, a vu arriver 1 million d'immigrés en quelques années. Cela n'a ni augmenté le taux de chômage, ni fait baisser le niveau de salaire moyen, tranche l'économiste de l'OCDE. Toutefois, le mouvement de migration actuel est de nature exceptionnelle, tant par son ampleur, sa durée, que par la variété des situations des migrants et des routes empruntées par ceux-ci. Il faut une réponse à la hauteur de cette crise humanitaire majeure, plaide M. Dumont. Selon lui, les réfugiés, notamment les Syriens et les Érythréens, mettent davantage de temps à s'intégrer au marché du travail que les immigrés, car ils arrivent souvent sans projet, n'ont pas appris la langue du pays d'accueil, ont parfois subi des traumatismes, n'ont pas eu le temps d'emporter leur diplôme, etc. L'accueil des réfugiés est plus coûteux pour les États à court terme, car il faut investir dans des structures d'accueil et des politiques d'accompagnement social et sanitaire. Mais il ne faut pas oublier la question des bénéfices à moyen terme. Pour ce responsable de l'OCDE, tout l'enjeu est de réduire ce temps nécessaire pour qu'il s'intègre au marché du travail. En accordant le statut de réfugié plus rapidement, cela permet de passer plus vite à la phase d'intégration. M. Gajdos estime que le coût pour les finances publiques de cet accueil est dérisoire, même pour un pays à faible croissance et niveau de dette élevé comme la France. Ce sont des tout petits nombres par rapport à la population, et dans la majorité des cas, ce sont des jeunes qui voudront travailler, créer de la richesse et élever le niveau social de leurs enfants. Ils vont donc consommer, se loger, bref, participer au dynamisme de l'économie. Selon ce chercheur, l'Europe fait fausse route avec un accroissement considérable des murailles autour des pays riches. Ce n'est pas viable. Même son cloche dans les entreprises. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que l'on n'arrêtera pas des migrations massives avec des mitrailleuses sur des bateaux, tempête Loïc Armand, président de L'Oréal France, qui préside de la Commission Europe du MEDEF. Tout sauf une crise passagère. Il voit dans le phénomène migratoire incontrôlé actuel le résultat notamment de l'insupportable différence de richesse entre une Europe riche et vieillissante et une Afrique jeune et encore trop loin d'avoir les infrastructures nécessaires au développement harmonieux de son économie. Que le MEDEF se préoccupe du sujet serait-il de nature à alimenter l'idée selon laquelle l'immigration serait une bonne chose pour les employeurs, mais pas pour les salariés? Là aussi, les économistes balaient cette crainte de voir l'immigration tirer vers le bas les salaires ou prendre des emplois.
M. Gajdos évoque de récents travaux de recherche démontrant que la concurrence des travailleurs immigrés a été un facteur d'accélération de la promotion sociale des natifs qui sont poussés vers des emplois plus qualifiés. Une étude de l'OCDE menée sur une longue période, 2001 à 2011, a mesuré que les immigrés représentaient 15 % des entrées en emploi dans les métiers et secteurs en croissance, mais 28 % dans les métiers en décroissance. Autrement dit, alors que les natifs délaissent la formation et l'orientation vers les filières sans perspective, ce sont les étrangers qui viennent répondre aux besoins du marché de l'emploi. Même ces métiers en récession recrutent, ne serait-ce que pour remplacer une partie des départs à la retraite. En France, malgré un taux de chômage supérieur à 10 %, le MEDEF chiffrait fin 2014 dans son étude annuelle à 320 000 le nombre d'emplois non pourvus. Des postes dans tous les secteurs, de l'industrie au service à la personne. M. Dumont reconnaît qu'il est plus compliqué d'accueillir des immigrés dans une économie dont le marché du travail est plus rigide. Pour les économistes, améliorer l'utilisation des compétences des réfugiés augmentera l'impact positif de l'immigration sur la fiscalité et la croissance. Alors voilà. Personnellement, j'essaye entre deux pôles, c'est-à-dire celui que je viens de lire et qui dit « accueillir des immigrés, c'est bon », et « Les raisins de la colère », cette œuvre monumentale de Steinbeck où on faisait venir plein de gens en Californie justement pour créer une situation insupportable et les payer moins. Mais enfin, on verra de quoi il retourne.
Si vous habitez Sherbrooke et que vous connaissez le marché de la gare, eh bien, figurez-vous qu'on y a installé un lampadaire. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire en soi, mais c'est un lampadaire, et maintenez-vous bien, qui recharge votre téléphone. Nous sommes cernés. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Enfin, si quand même, ce lampadaire, il est alimenté par de l'énergie solaire, donc on lui pardonne. Voilà, si votre batterie est vide là et que vous passez tout près, ben, sachez que vous pouvez vous recharger gratuitement.
Une idée lumineuse. Finances publiques, tiens, parlons un petit peu des finances publiques de l'ouest du pays, en fait de Saskatchewan et d'Alberta. On s'en doute, la chute des cours du pétrole est un drame pour ces deux provinces, particulièrement en Alberta. Écoutez, le déficit albertain cette année, parce qu'on avait un surplus jusque-là, va être de 5,9 milliards de dollars, ce qui est énorme pour une province de cette taille-là. Pendant ce temps-là, en Saskatchewan, où on avait prévu un léger surplus au début de l'année dernière, eh bien, on s'attend à un déficit de 320 millions. Mais il faut dire que dans le cas particulier de cette province-là, la lutte aux incendies de forêt a gravement obéré le budget.
Oui, je vous parlais tout à l'heure de ce sympathique Américain qui voyageait avec sa voiture électrique et qui est passé par Montréal. Il n'a certainement pas manqué de constater que les trous sont particulièrement profonds cette année, particulièrement mal réparés cette année. D'ailleurs, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme celle d'avant, d'accord ? Eh bien, sachez, ne l'oubliez pas, c'est su, mais il faut le répéter, qu'on peut se faire rembourser par la ville de Montréal si on abîme sa voiture ou sa moto. Dans ces trous, depuis 2010, sachez que la ville a reçu depuis 2000 dossiers. 400 000 dollars de demandes de dédommagement. Il y a quand même 200 000 qui ont été payés par la ville.
Et tiens, on toute autre perspective, je ne sais pas avec quoi vous nourrissez votre minou à la maison. Si c'est du Fancy Feast, eh bien sachez que Fancy Feast, c'est la propriété de la Suisse Nestlé et que c'est peut-être, je dirais, du travail d'esclave. Il faut savoir que Nestlé s'approvisionne largement en Thaïlande pour les fruits de mer qu'ils mettent dans les petites boîtes donc d'aliments pour chats et chiens. Ces fruits de mer-là seraient pêchés par des gens qui, eux, pratiqueraient l'esclavagisme avec des jeunes du Cambodge ou du Laos voisin, qui sont des gens plus pauvres. On vend des enfants aux pêcheurs. Tout ça est très prospectif parce qu'il y a une série de plaintes qui ont été portées en Californie. Évidemment, Nestlé, la Suisse Nestlé, la très, très, très Suisse Nestlé, dément fortement s'enrichir à partir du travail d'esclaves, mais c'est une possibilité.
Je voudrais apporter mon soutien à un fonctionnaire du ministère de l'Environnement qui a publié sur YouTube une chanson satirique contre Monsieur Harper. Et la chanson s'appelle Harper Man. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. Et c'est quand même terrible parce qu'il a été suspendu à la suite de ça. Et vraiment, c'est la dernière chose que j'attendais voir dans ce pays, là-dessus. Et alors que le Premier ministre ose profiter de sa position pour ne pas supporter qu'on se moque de lui, voilà peut-être la dernière, le dernier élément qu'il faut engranger avant de se décider pour savoir pour qui on vote.
Oui, à la décharge de Stephen Harper, et je dois dire ici que c'est rare que je vais le décharger de quoi que ce soit, c'est probablement pas lui qui a fait le travail, mais bien ses zélateurs qui veulent le laver plus blanc que blanc. Cette émission tire à sa fin. Juste un mot pour vous dire qu'une nouvelle crème glacée a été inventée en Grande-Bretagne qui fond moins lentement grâce à une protéine qu'on ajoute à la recette. J'espère qu'on va en arroser le Groenland pour stopper la fonte des glaciers. C'est déjà la fin de cette émission, la toute fin, puisque Kiosque Magazine quitte l'antenne à la fin de cette semaine. Au cours des dernières années, Eric et moi vous avons présenté des nouvelles économiques. Je vous invite fortement à rester au courant de ce qui se passe et éventuellement en prêtant l'oreille à la nouvelle émission de Clotilde de Seille qui prendra l'antenne la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à Rémi Hermoso d'avoir assuré la mise en onde et d'avoir été si patient au cours de ces dernières années. Merci, Eric.
Merci à vous, François. Merci à tous.
Et à une prochaine fois.